Sarko est 33ème. Eh, c'est trop fort. Sans déconner, ça ressemble à quoi? Bon, que Chirac soit revenu premier, à la rigueur, bon, on peut dire qu'il était sympathique et tout, tout ce qu'on veut si on met la politique de côté. Mais on a un président qui est 33ème. Mais c'est extraordinaire, les Français sont peut-être en train de se réveiller. Bon, on peut mettre un bémol quant à ce genre de sondage, mais tout de même, je sais pas si vous avez regardé les Guignols hier soir, c'était excellent. Et Europe 1 hier qui nous font une émission complète chez Morand machin, là, en expliquant que Chirac il est premier et tout ça, il demande pourquoi. Mais il a pas dit que leur ami Sarkozy, il était 33ème. Ils s'en sont bien abstenus. À mon avis, il y a du El Kabash là-dessous, en espérant que ça soit pas ton futur patron. Allez, à plus. Salut tous les AMG.
Ouais, super, je viens d'entendre notre ministre, là, pour la sécurité. Alors, c'est super, on va interdire les cagoules, c'est bien. Après-demain, on va interdire les chapeaux, les lunettes de soleil, les foulards, les écharpes. Ouais. C'est cool. Je sais pas comment on va s'habiller pour aller manifester. Ça va pas être facile, hein. Allez, les gars, on continue, à plus. Ciao. Bonjour, tout le monde. Je voudrais quand même préciser qu'il serait quand même bien que les policiers qui caillassent les jeunes dans les manifestations enlèvent leurs casques. On a du mal à les reconnaître sur les vidéos. C'est un petit peu embêtant quand même. Hein? Allez, salut, bonne journée.
Salut, c'est Fabrice Routier en Ardèche. Ce matin, j'ai écouté MAM. Alors, je sais pas si Julien Coupa, il a la radio et qu'il écoute France Inter le matin. En tout cas, il a dû se sentir bien seul, hein. Parce que bon, 1h30 avec Mam, Julien Coupa, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, on n'en parle pas, et surtout, pas d'auditeurs qui posent des questions. Alors je pense qu'il y avait quand même des auditeurs qui avaient appelé, mais évidemment, ils n'ont pas passé le standard. Voilà. Alors bon, bah, c'est bien quand même de nous donner un peu de temps libre. Je te remercie Daniel pour ton répondeur, qui nous permet quand même de s'exprimer. Ça manque un peu sur cette radio. Voilà. Allez, bonne journée.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour les AMG. C'est Claude en Seine-et-Marne. J'appelle parce que ce matin, c'était la ministre de l'Intérieur qui était l'invitée de la matinale. Et il y a une auditrice qui a téléphoné pour poser une question apparemment indiscrète ou gênante pour Madame la ministre. Eh ben, on lui a tout bonnement coupé le sifflet, dis donc. On est passé à un autre auditeur. Et puis, bah, j'ai même pas entendu la totalité de la question, quoi. Alors, je voulais savoir si c'était les nouvelles méthodes employées à France Inter, avec la mainmise de l'Élysée sur la direction de la chaîne. Ben, il va falloir faire attention à ce qu'on dit, hein. On va pas pouvoir te laisser tous les messages qu'on aurait voulu. Il faut peut-être qu'on se dépêche de dire ce qu'on a à dire. Alors au revoir Daniel, au revoir les AMG, bonne journée à tous, profitez vite de nos derniers instants de liberté, au revoir et merci.
Oui, salut Daniel, je voulais réagir à l'émission interactive de ce matin sur la tranche horaire à 8h30, dont l'invité était Michel Alliomarie. Une auditrice Sabrina qui appelait de Bordeaux voulait interroger la ministre de l'Intérieur sur le limogeage qu'elle a elle-même effectué. Du sous-préfet de Sainte-Bruno-Guigue, puis sur un individu, probablement membre du Bétard ou de la Ligue de Défense Juive, qui avait poignardé un commissaire à la manifestation organisée par le CRIF le 7 avril 2002, et elle a été littéralement coupée, sous prétexte que ça ne concernait pas la ministre de l'Intérieur. Une manifestation, la sécurité, la police et un sous-préfet, ça ne concerne pas la ministre de l'Intérieur, c'est assez bizarre. Et tu nous avais promis, après le lobby pro-israélien aux États-Unis, la même enquête sur le lobby pro-israélien en France. Ben, y a du boulot. On attend cette émission avec impatience, Daniel. Salut.
Oui, vous êtes nombreux. Bonjour à tous, chers AMG. Vous êtes nombreux à avoir laissé des messages sur le répondeur de la base où j'y suis au sujet de cette séquence du 8-9 ce matin sur France Inter. Alors, la première chose, c'est que ici, c'est la base où j'y suis. Et donc, si vous avez des réclamations et des observations à faire, ce qui est souhaitable et souhaité, eh bien, vous pouvez vous adresser directement à nos nos confrères qui ne manqueront pas évidemment de vous répondre. Mais plus précisément là-dessus, effectivement, la question posée par cette auditrice qui a été interrompue concernait Bruno Guigues, le sous-préfet de Saintes, en Charente-Maritime, qui a été limogé par Michel Alliot-Marie le 13 mars dernier, après qu'il ait publié une tribune très critique envers la politique israélienne, et ça a déplu à la ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a été mise au courant et qui a décidé de mettre fin à ses fonctions à cette époque-là. Donc, il peut arriver que même lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on ait des trous de mémoire. Quant à l'autre affaire évoquée par cette même auditrice, il s'agit effectivement lors d'une manifestation organisée par le CRIF, place de la Bastille, le 7 avril 2002, il y a eu des violences, généralement imputées à la Ligue de défense juive et au Bétard, et un commissaire de police a été poignardé par un individu non identifié. Ce jour-là, il y a eu des enquêtes, mais ça n'a pas un grand retentissement médiatique, et je crois bien que les enquêtes se sont un petit peu enfoncées dans les marécages. À l'époque, c'était Daniel Vaillant, si ma mémoire est bonne, qui était en charge du ministère de l'Intérieur. Voilà, des affaires évidemment passionnantes à suivre. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est que nous remercions les 45 000 auditeurs qui, dans le récent trimestre, ont rejoint là-bas, si j'y suis, à 15h, l'émission qui fait honte à France Inter. Vous êtes quand même nombreux à l'écouter. Merci à ces 45 000 nouveaux auditeurs. Et puis, à partir d'aujourd'hui, on aura sans doute des auditrices philippines. Pourquoi ? Parce que avec Charlotte Perry, on va aller voir ces bonnes, il faut les appeler comme ça, des domestiques philippines qui sont très discrètes, dont on parle peu, qu'il n'est pas si facile de rencontrer. Et on va passer un dimanche avec elles. Un dimanche philippine. Comment vivent aujourd'hui ces femmes venues de loin, souvent diplômées, qui ont quitté leur pays pour venir bien servir les familles dans les beaux quartiers qui nous entourent, autour de la maison de la radio, et qui ne sont pas sans parenté et sans analogie avec les bonnes d'autrefois, les bonniches d'autrefois, comme on disait, les bécassines bretonnes qui venaient de leur Finistère ou de leur Morbihan, échappant à la destinée des servantes de ferme et qui montaient vers Paris où elles servaient les familles bourgeoises de la capitale. Et elles ont laissé comme témoignage les chambres de bonne. Il suffit, marchant dans Paris, de se lever la tête et de voir ces petites fenêtres dans les toitures. C'est là que vivaient ces femmes longtemps. Et bien aujourd'hui, elles sont c'est les Philippines. C'est plus loin, elles viennent de plus loin, mais c'est à peu près le même destin. C'est elle qu'on va rencontrer en tout cas, et avec qui on va passer un dimanche philippine. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oyez, oyez, le prochain repère d'Orléans se réunira le 21 avril au bar Les Gontoirs, au 226 rue de Bourgogne à Orléans, à partir de 19h30 et ainsi de suite tous les troisièmes mardis de chaque mois. Qu'on se le dise.
Bonjour à tous, un message urgent des salariés de Continental Clairoy. Ils préparent un voyage à Hanovre le 23 pour manifester auprès des actionnaires avec leurs collègues allemands, car le site de Hanovre doit aussi fermer. Cette action serait inédite, un mouvement franco-allemand, c'est le début de l'Europe sociale. Ils ont besoin de 60 000 euros pour affréter un train spécial. Ils font appel à votre générosité, il reste une semaine pour récolter la somme. Vous pouvez adresser vos dons par chèque ou espèce à l'ordre de Solidarité Continentale, à l'adresse suivante, Solidarité Continentale, 35 rue du Tour de Ville, 60 280, Clairoy. Merci.
qu'est-ce que j'entends ce matin au réveil? Ces gauchistes de Monégasque vont manifester devant le palais? Je cours à mon calendrier et je vois 17 avril. Non, ce n'est pas le 1er avril. Et on attend 3000 personnes. Oh, eh bien, nous en France, les spécialistes, on est court derrière, car 3000 monégasques dans la rue, avec une petite règle de 3 sommaires, ça fait environ 40 millions de Français qui défileraient. Ah, on est loin, on est nul à côté de Monaco. C'était Marine de Lège.
Radicaliser le mouvement sociaux, bah ma foi, ah, ça serait efficace, ouais. Mais si on commençait à utiliser les leviers, tiens, comme celui de voter au prud'homme, pas compliqué. On pouvait voter de chez soi avec une enveloppe pré-timbrée, tu te rends compte? Mais non, ça a fait 70% d'abstention. Si ça avait fait 70% de participation, tu vois à peu près, ça serait brassé, efficace. Allez, il y a encore les européennes qui arrivent. On parle déjà d'un record d'abstention. Et si ça passait à 70% de participation, t'imagines le bazar? À bientôt, Michel.
Oui, bonjour Daniel et tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis, ici Corinne de Caen. Je vous appelle à propos de notre prochain repère, donc qui aura lieu ce jour, jeudi 16 avril à 20h30, dans le café Le News, au 15 boulevard Leroy à Caen. Changement de programme de dernière minute pour vacances scolaires et intervenants occupés par ailleurs. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sera le problème de logement, le logement social, le logement d'urgence, avec quelques intervenants surprises de dernière minute qui ont bien voulu nous répondre. Donc je vous redis, jeudi 16 avril, Café Le News à Caen, au 15 boulevard Leroy, à 20h30. Merci à vous tous, à très bientôt.
Salut les AMG de l'Isère. Le prochain rendez-vous du repère de là-bas si j'y suis au Sabot des Muses à Saint-Bernard-du-Touvet aura lieu ce vendredi 17 à 18h30. Nous parlerons des lois informatiques et des libertés. Venez nombreux, on vous attend.
Moitié homme, moitié facho, le plus dangereux des magots, Sarkomane. Sarkomane, héros des milliardaires. En fait, je viens de l'inventer à l'instant, là, en préparant à manger. Donc, je voulais vous en faire profiter. Bon, je sais, c'est nul, mais ça me fait rire. Voilà. Et puis, bon, ben, en ce moment, c'est un peu le printemps, j'ai envie de rigoler, parce que c'est pas très marrant, les actualités qu'on a actuellement. Donc, il faut garder, enfin, moi, j'essaie de garder un peu le sourire à ma manière. Voilà. Moi, c'était Mathieu, du Val-de-Marne. Allez, grosse bise à tous.
C'est pas vraiment le rêve. De venir en France comme un domestique.
Je suis là pour travailler, pour nourrir ma fille, pour payer le loyer, pour payer l'école. Voilà.
Les patrons s'évertuent à leur parler en anglais. Parfois, je me demande si c'est pas volontaire pour pouvoir davantage contrôler les choses, je dirais, nos discours, pas leur dire toujours la vérité. Parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits, en fait.
Convier quelqu'un, il y a une indemnité de séparation, n'est-ce pas? Et elle doit toucher aussi, mais elle est rien, elle est jetée dehors comme une éponge, comme ça.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Dimanche, Philippines.
Flight number 2, arriving from New York.
Good evening to everyone.
Bon appétit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
En France, en France.
Maligayang pati.
sans papier, sous-payé, mais on parle rarement d'eux, et on devrait dire d'elles. Je vais parler des Philippines, des femmes, pour la plupart, venues de loin, venues des Philippines, pour servir les familles aisées des beaux quartiers, celui où nous sommes, ici, à la Maison de la Radio, dans le 16e, dans l'Ouest parisien également, et sur la Côte d'Azur. Habiles, dociles, réservées, éduquées, catholiques et corvéables à merci. On va passer un dimanche avec elles, sur comment elles vivent, leurs espoirs, leurs désespoirs, ce qui les aide, qui les protège, la façon dont elles s'organisent. Pour une fois, on va écouter ces voix-là, avec dans le lointain l'écho des voix, pas si éloignées que ça finalement, de ces femmes venues d'un peu partout, de France, vers les villes, les femmes de la vallée de l'Ain ou de Savoie, vers Lyon, les femmes de Picardie, comme ma propre grand-mère, ou les Bretonnes, dont je faisais allusion avec, évidemment, la figure de Bécassine, qui restera à jamais la figure de l'apartheid social, puisque on rigolait, on a fait rigoler des générations entières des maladresses de Bécassine jusqu'à ce que ça devienne presque un personnage, une sorte de comédia dell'arte cynique et sociale. Aujourd'hui, c'est les Philippines, ces femmes venues de loin, donc, fuyant la dictature, fuyant la misère, et souvent éduquées, souvent diplômées, donc appauvrissant leur pays de leur talent, de leur présence et de leurs compétences, et qui viennent dans nos beaux quartiers. Elles viennent dans d'autres pays du monde, ils viennent aussi, les hommes se déplacent, et ils fournissent l'essentiel des ressources des Philippines. C'est l'essentiel des ressources proviennent de cette diaspora de travailleurs, de travailleuses et d'immigrés, souvent sans papier. Sans papier, mais on n'entend jamais parler de ces gens-là. Eh oui, mais mesdames et messieurs, il s'agit des beaux quartiers, et contrairement à ce que l'on croit, c'est un reportage qui n'est pas bien lointain, puisque c'est autour de notre maison de la radio, et, charme discret de la bourgeoisie oblige, ça n'a pas été si facile que ça, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, un dimanche, Philippines.
Si je te dis qu'il y a encore des esclaves aujourd'hui, sur cette terre et peut-être même dans ton pays, des personnes qui ont droit de vie ou de mort sont d'autres, autrement dit, droit de propriété sur autrui. Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue, esclaves de mille sont les petits bonnes au visage perdu, esclaves de mille sont les cris qu'on n'entend plus, étouffés par des lois qui cautionnent ce genre d'abus. Esclaves de mille, c'est derrière les ambassades, esclaves de mille, c'est derrière les palissades. Esclaves de mille n'est pas une fiction, des millions concernés derrière des maisons. On n'oublie pas nos vies fortunes aujourd'hui fort respectables ont été montées à Bordeaux, à Nantes sur la traite des esclaves. Tu me diras c'est le passé. Le passé se répercute, et aujourd'hui l'esclave n'est pas qu'enchaîné derrière une hutte. Même la justice française reste aveuglée. Vas-y, ressort du tiroir le dossier de Véronique Acrobé. L'esclavage moderne n'est pas reconnu par l'UNICEF, l'esclavage moderne n'est pas reconnu par l'UNESCO. Sur le sujet, langue de bois, vaut mieux pas s'attirer la foudre d'une bonne cinquantaine d'États membres des Nations Unies. De toute façon le sujet n'intéresse ni Amnesty ni la Fondation de France, ni France Liberté de Madame Mitterrand. Anti-slavery, la seule assoce qui va de l'avant. Sur le sujet, Big Up obligé de la représenter pour qu'il sache que dans le hip-hop y'a des gens concernés. Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue, esclaves de mille sont les petites bonnes au visage perdu, esclaves de mille sont les cris qu'on n'entend plus, étouffés par des lois qui cautionnent ce genre d'abus. Esclaves de mille, c'est derrière les ambassades, esclaves de mille, c'est derrière les palissades. Esclaves de mille n'est pas une fiction, des millions concernés derrière des maisons.
Moi, je m'appelle Rafaelito Gomez. Je suis informaticien. Je suis en France depuis 25 ans maintenant.
On est dans votre boutique?
Oui. Notre activité principale, c'est de réparation d'ordinateurs. Et oui, moi, je suis dans l'informatique depuis 20 ans.
Rafaelito Gomez, voilà. Alors, c'est l'une des clés d'entrée pour rencontrer la communauté des Philippins et des Philippines à Paris, en France. Ils s'occupent d'une association qui s'appelle Maalika, ça veut dire noble, dans leur langue, dans la langue qu'ils parlent, la langue philippine. Et ben voilà, il fait partie de ceux qu'on retrouve régulièrement. Dans chaque groupe comme ça qui essaye de s'intégrer, il est celui qui favorise, qui aide, qui soutient l'intégration de ses compatriotes. Et ça, on a toujours eu ça. À chaque fois qu'il y avait intégration, il faut toujours comparer ces immigrations difficiles, ces intégrations plus ou moins difficiles, avec ce qui nous est arrivé en France, dans notre propre histoire. Ça permet de comprendre les migrations intérieures qui sont produites chez nous. J'évoquais la Picardie, la Savoie, enfin de partout. Et puis évidemment, sans oublier jamais les maçons de la Creuse qui ont construit Paris et qui ont construit aussi ces chambres de bonnes où ont longtemps vécu ces bonnes au service des familles françaises, des bonnes familles bien bourgeoises, avec toutes les mœurs que l'on connaît, décrites par tous ces auteurs de Balzac à Maupassant et Flaubert, Un cœur simple, vous vous souvenez? Voilà, là, on est avec Rafaelito Gomez, qui nous présente un peu cette communauté et la situation de cette communauté.
Vous êtes parti à quel âge des Philippines?
J'ai quitté les Philippines à l'âge de 26 ans.
Qu'est-ce qui vous a poussé à partir?
Quand j'étais aux Philippines, il y avait un dictateur, il s'appelle Marcos, et il n'y a pas de place pour lui et moi là-bas. Alors, et c'est lui l'envoi du pays, j'ai oublié de quitter. Ça, c'est ma raison principale. Et je suis président d'une association philippine, ça s'appelle Maharlika. C'est une association qu'on a montée il y a 15 ans. Et nous, c'est pour intégrer et pour entraider entre les Philippins. C'est ça notre but. En ce moment même, on a des cours de français. On donne des cours de français aux Philippins qui, comme moi, qui ne parlent pas trop bien le français. Tous les dimanches, on dit c'est le cours de dimanche. Et on a beaucoup d'élèves. En ce moment, on a à peu près 300.
Les membres de l'association, c'est principalement des hommes, des femmes ou moitié-moitié à peu près?
L'association, en ce moment même, peut-être on a 95% des femmes. Voilà, les hommes, on a une dizaine, c'est tout. Moi, je pense que les femmes philippines sont beaucoup plus acceptées parce que, vous savez, leur travail, c'est principalement dans la maison. Vous avez pour tenir la maison, pour garder des enfants, préparer les nourritures. Et c'est beaucoup plus agréable pour l'employeur d'avoir une femme chez eux qu'un homme. Je ne sais pas, ils trouvent beaucoup plus facilement le travail. Pour ça, il y en a beaucoup de femmes qui sont venues en France. Ce n'est pas vraiment leur rêve de venir en France comme un domestique. C'est, vous savez, la plupart de ces femmes-là sont diplômées. Alors, il est bien en France, comme tout le monde, quand on arrive dans un pays, il faut d'abord déjà trouver le moyen de vivre. Il trouve des petits travails. Et après ça, peut-être, il espère utiliser leur diplôme. Il y en a beaucoup de dentistes, d'optométristes, des infirmières, des professeurs. Vous savez, venir en France, ce n'est pas principalement pour devenir ça. Non, ce n'est pas vraiment ça le but. Oui, comme tout le monde, il rêve d'une vie meilleure.
En tant que domestique, elles vont avoir un meilleur salaire que si elles étaient dentistes ou professeurs aux Philippines?
Vous savez, le SMIC en France, c'est environ 1000 euros. Le SMIC aux Philippines, c'est environ 300 euros. Alors, vous savez, dernièrement, il y en a beaucoup de Philippines qui ont quitté la France.
Pour aller où?
Ils vont aller au Canada. Vous savez, au Canada, si vous avez l'expérience de travailler dans un pays occidental et vous avez l'habitude de travailler avec des personnes âgées, là-bas, ils vous accueillent avec bras ouverts. Et dans mon association, il y en a beaucoup, peut-être 300-400 l'année dernière, qui ont quitté. Il y en a beaucoup encore qui voulaient quitter. Franchement, pour quitter la France, ce n'est pas trop facile non plus. Mais il est beaucoup plus facile de quitter la France, d'aller au Canada, qu'à gagner des papiers ici en France. Quand ils arrivent là-bas, ils ont leurs papiers dès qu'ils arrivent dans le sol Canada. ici, vous voyez, dans cette précarité, il y a beaucoup qui pensent que c'est mieux là-bas.
Philippins en France. Selon une estimation du Quai d'Orsay en 2004, 7166 ressortissants selon le ministère de l'Intérieur. 334 signalements en 2007 au comité contre l'esclavage moderne. 101 cas de servitude révélés en 2007 par la gendarmerie nationale. Vous le saviez tout ça? Non, hein, c'est pas grand bruit. Charme discret. 8 millions de Philippins résident à l'étranger sur une population totale de 75 millions d'habitants aux Philippines. Les Philippins sont présents dans 193 pays, c'est donc une vaste diaspora. Et j'évoquais l'argent que les Philippins émigrés envoient à leur famille, eh bien c'est la première ressource de revenus pour le gouvernement. En 2007, 14 billions de dollars ont été envoyés aux Philippines, soit 24% du PIB, qui est de 170 millions de dollars. Concernant l'emploi de personnes en situation irrégulière, il faut quand même rappeler ceci, amis du 16e arrondissement qui est autour de nous et qui écoutait notre émission. L'emploi d'étrangers sans titre de travail, 5 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, 5 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Travail dissimulé, 3 ans de prison et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Elles sont bien les lois, hein? Sont-elles appliquées? On verra ça tout à l'heure. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que pourrait être la réponse. Venons-en à Mengji ce dimanche. Vous avez entendu, c'est l'anniversaire autour de Rafaelito Gomez et toute la communauté là, enfin un certain nombre d'amis de la communauté se sont réunis. Et voilà Mengji, ben c'est un parcours un peu classique de ces Philippins, donc en majorité, je l'ai dit, des Philippines.
Je suis Mengji, je m'appelle Mengji. J'habite à Paris depuis 8 ans. Mais désolé pour ma français, hein. Parce que je suis à l'école française, hein, depuis 6 ans, mais mon patron parle pour moi, parce que je parle anglais. I know how to speak English.
Et avec votre patron, vous parlez en anglais?
Non, mon patron parle français, hein. Oui, en français. Mais je apprends anglais pour deux enfants, et pour mon patron aussi.
Ils ont quel âge, les enfants?
7 ans, hein. Et après, deuxième enfant, 3 ans et demi. Pour le Dieu, voilà.
Vous lui apprenez les prières?
Oui, prières, parce que mon patron catholique aussi.
Vous les emmenez à la messe aussi?
Oui, à la messe aussi, dimanche.
Et ça fait combien de temps que vous travaillez pour
mon patron, depuis 6 ans.
Et vous habitez avec eux?
J'habite à 16 arrondissements, à côté d'Avenue Poche. Patron habite à la Batignolle, 17e arrondissement. Je commence à 8h30, je réveille 6h50.
Est-ce que vous devez emmener les enfants à l'école le matin?
Oui, je vais aller à l'école de Sampo. Je recherchais de Sampo pour le matin. Je donnais à manger et après je vais aller encore à l'école. Voilà. Et après je rentre à la maison. Mon patron, et après je arrange la maison, et après, voilà.
Et après vous rentrez chez vous?
Non, après lundi et mercredi, je allais à l'école, la cour française. Ma cour française commence à 8h30 jusqu'à 10h. Et après je rentre ma maison trop tard, jusqu'à 11h. Oui.
C'est des longues journées, hein?
Oui. Ouais. Oui, mais c'est la vie, c'est normal.
Et aux Philippines, vous faisiez quoi comme travail?
Je suis professeur à la Philippine, avec les enfants. Et après, je rentre ici à 2000. Oui, en 2000. I also finish business administration. Je suis commerçante aussi à la Philippine. Voilà.
Et vous avez des enfants là-bas?
Oui, un seul, 17 ans, à la université maintenant. Parce que je donne à Gombe l'argent pour elle. Parce que je voudrais finir l'école, l'université, voilà.
Et là, ça fait 7 ans que vous ne l'avez pas vu.
7 ans, voilà. 7 ans. Mm-hmm. Avant, je ne suis pas contente, mais après, doucement, je suis très, très contente. La vie ici, je ne suis pas professeur pour le moment, parce que papa paye pour le moment. Mais je pense que je suis professeur aussi.
voilà un parcours. Typique, disons, de ces femmes philippines qui sont les bonnes, les domestiques des beaux quartiers parisiens. Et si on revient aux bonnes bretonnes du tournant du siècle dernier, c'était une libération de devenir bonne à Paris. Et oui, parce que servante de ferme, c'était très très lourd, c'était très très dur. Donc déjà, c'était mieux. Et oui, mais bien sûr que il y avait ce statut assez difficile, un peu infamant sur place. Mais lorsqu'on revenait au village de temps en temps, comme nos amis maliens retournent chez eux dans leur pays, Vercaille, etc. On revient avec un certain prestige après, puisqu'on vient de Paris, on vient de la ville Lumière, on a des histoires à raconter, des merveilles à décrire. Et comme tous ces migrants, l'on ment. J'ai des courrier de mon propre grand-père venu de Savoie et qui ment dans ses lettres, qui décrit une ville lumière absolument superbe, alors que nous savons bien, nous, les descendants, qu'il en bavait, mais il mentait. Ça s'appelle la dignité humaine, ça, parce que c'est très difficile de se lever le matin dans une petite chambre qui fait 6 mètres carrés, de se dire qu'on va avoir une journée de merde et d'y rentrer le soir en se disant qu'on a eu une journée de merde. C'est tout simplement impossible. Alors on arrange, alors on enjolive, mais ça n'est pas toujours facile.
Et ici, on est où?
On est au mairie de Clichy. C'est là où j'habite. Moi, j'ai une maison un peu plus spéciale que les autres parce que moi, j'ai vraiment eu des chances. Mais les autres, ils habitent dans des studios, dans des chambres de bonne. Ouais.
Alors, c'est quoi le salaire normal quand on travaille pour une famille?
Des Philippins? Des Philippins, un salaire à peu près 1200 euros. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui sont payés moins que ça, mais peut-être ils travaillent plus pour le même salaire. Vous avez demandé l'autre personne tout à l'heure. Il commence à 8h30 le matin jusqu'à 20h le soir. Ça fait 11h30. C'est ça son travail. Mais il aime bien. Parce qu'il n'est pas abusé verbalement, moralement, il n'y a pas de insultes, il y a ça. Ce n'est pas parce que c'est les oreilles longues, ce n'est pas ça. Le problème, la plupart du temps, c'est des insultes, des traitements pas corrects. Voilà, mais elle est contente avec son patron. Même les oreilles sont très longues, hein, franchement. Vis-à-vis de la loi française, c'est trop longue. 11h30 par jour.
Mais par exemple, pendant l'été, les gens ils vont partir en vacances. Elle va être payée ou...
Vous savez, les familles qui sont vraiment correctes, ils payent leurs employés pendant leurs vacances. Mais il y a à peu près 50% qui ne payent pas. Voilà, surtout beaucoup qui sont sans papier et non déclarés, ils ne payent pas.
Mais ils ont les moyens de payer pourtant.
Ben oui, ils ont vraiment toutes les moyens. Merci beaucoup.
C'est pour vous, monsieur.
Merci.
Pour vous, mademoiselle.
Merci.
Ça n'a pas été le gain.
Voilà. Au fond, tout se passe bien dans le meilleur des mondes de l'exploitation de l'homme par l'homme. Parfois, ça grince un petit peu, même si ça ne dépasse pas les confidences et les complaintes. Parfois, ça sort un petit peu de ce cadre-là. Écoutez l'histoire de Mélissa.
Bonjour.
Comment vous vous appelez?
Mélissa.
Et alors, vous êtes à Paris depuis combien de temps?
8 ans.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Le 10 de septembre, l'enfant a juste pleuré pour un peu caprice. Et dit que, voilà, Mélissa, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, monsieur, pourquoi elle pleurait comme ça. J'ai dit que j'ai préparé son déjeuner. Voilà, et la petite, elle pleurait. Voilà, j'ai fait rien pour ça. Et après, elle dit, prends ton sac et ce jour, partir. Il ouvre la porte comme ça. Et quand j'ai sorti de son maison, il ferme la porte.
Il vous a jeté à la porte de la maison avec vos affaires?
Oui. Voilà, c'est ça.
Au début, il était vraiment maltraité. La patronne, il le traite comme une esclave. Hein. Un jour, déjà 14 heures, la femme, l'employeur, dit, vous pouvez manger maintenant. Et le monsieur, le mari, a dit, non, elle n'a pas le droit de manger, c'est une esclave. Voilà. Et puis, un jour, le babou était cassé par un accident. Il y a une verre qui a tombé. La patronne a dit à elle de le rembourser. Et elle était d'accord. Bon, elle était d'accord comme ça. Mais par contre, ça coûte trop cher. Et ça peut vraiment coûter très cher. Et comme elle ne va pas toucher ses salaires pendant 6 mois. Finalement, elle ne peut pas vraiment rembourser. Il n'y en a pas de moyen de payer ça. Et jusqu'à maintenant, la patronne réclame ça. Vous savez, elle a travaillé pendant 7 ans et demi. Ce congé sont seulement 12 semaines par an. Et puis elle travaille 10 heures par jour. Depuis qu'elle était jetée dehors, normalement elle doit son salaire. Voilà. Et elle n'a pas donné encore. Puis aussi, convier quelqu'un, il y a une indemnité de séparation, n'est-ce pas? Et elle doit toucher aussi, mais elle est rien. Elle était jetée dehors comme une éponge, comme ça. Mais là, je pense que nous, on va aller à Prud'homme. Et après, on verra. Et il disait à son patron, parce qu'elle m'a appelé.
Le patron vous a appelé?
Oui, le patron m'a appelé. Alors, elle m'a dit, il ne va pas recevoir l'indemnité chez nous, l'indemnité de séparation, mais il va recevoir une plainte de vol. Ça, c'est l'indemnité qu'elle va recevoir. Voilà. Cette semaine, je crois que demain, elle va être accompagnée de Prud'homme pour porter plainte contre cette patronne qui est abusive. C'est vraiment grave. Elle a besoin de travailler pour nourrir son fils.
Et vous pouvez aller au Prud'homme comme ça, même si elle n'a pas ses papiers?
Moi, franchement, je pense que tous les travailleurs en France doivent avoir un traitement égal. Papier ou sans papier, on doit être traité de la même façon. Avec respect. Voilà. Mais si vous êtes traité d'une façon comme un chien, comme un esclave, je pense qu'on peut aller au Prud'homme, n'est-ce pas?
Et ça s'est toujours mal passé avec votre employeur ou ça se passait mieux avant?
C'est comme ça. Tous les jours, il n'est pas gentil. Quand j'ai son maison travaillé, Elle revient, sort, je ne sais pas ce qu'elle fait. Peut-être elle pense quelque chose que ce que j'ai fait avec son fils, mais je n'ai fait rien avec son fils. C'est ça, je n'ai pas une idée pour prendre son monnaie, son joaillier. Voilà, je suis là pour travailler, pour nourrir ma fille, pour payer le loyer, pour payer l'école, voilà. Parce que pour l'électrique, voilà, c'est ça, j'ai payé tout ça. Mon mari n'a pas beaucoup de travail. Enfin, elle dit que, merde, c'est quoi ça? C'est pour elle, putain! Elle est comme ça dans la maison, mais je dis rien.
Et vous, qui est-ce qui s'occupe de votre enfant quand vous vous occupez de celui de votre patron?
Mon mari.
Quand j'ai fini de travailler à 7 heures, après, c'est mon mari qui travaille après 7 heures. 12 heures par jour, 12 par semaine, voilà.
Et vous étiez payé combien chez votre patron pour travailler 10 heures par jour comme ça?
1300. Je ne travaille plus. Je cherche. C'est très très difficile pour chercher un travail.
Merci.
Nuestro director pedagógico c'est lui qui m'a assisté pour créer la cour de français il y a 3 ans voilà. Et jusqu'à maintenant c'est lui qui m'aide à organiser les professeurs, les cours, tout ça voilà. Et c'est son anniversaire dans 3 jours en fait avec lui, c'est comme ça. Et c'est une petite surprise.
Vous lui avez offert quoi?
Il y a des chemises, il y a des stylos plumes, il y a un petit goûter. Les Philippins sont comme ça, leur façon de remercier. De... C'est bien.
Il
fait
des folies. Hein.
Non,
c'est
rien.
Waouh, je rien, mais. Et puis ma
aussi. C'est porte-bonheur chez nous, ça.
Un portefeuille.
Oui, un portefeuille. Et il a mis deux petites monnaies à l'intérieur comme porte-bonheur. Voilà, next.
Voilà, voilà, ça se passe comme ça. Alors, une question se pose. Est-ce que M. Besson aura autant bon cœur que M. Hortefeux? Ah oh, ouais. Ah, monsieur Hortefeux, ça, le cœur sur la main, dès que ses amis des beaux quartiers, ici du 16e arrondissement, de Neuilly, etc., lui ont demandé de régulariser leur bonne Philippine, allez, il l'a fait. Enfin, c'est ce que, au moins ce qu'affirmait le Canard Enchaîné dans un numéro de février 2008. Sous la pression amicale du maire du 16e arrondissement, les services de Brice Hortefeux ont facilité la régularisation des domestiques philippins. Mais qu'on a eu comme ça une dérégularisation à géométrie variable selon les quartiers, selon... Voilà, enfin, qu'est-ce que vous voulez hein, c'est humain tout ça, c'est humain. Néanmoins, il se trouve quand même pas mal de Philippins et surtout de Philippines dont le sort n'est pas forcément enviable. Voici celui dont on fête l'anniversaire, Karim, qui enseigne le français comme il peut à ces jeunes femmes.
Vous êtes professeur de français?
Voilà, moi je donne les cours de français. Moi je m'appelle Karim. Effectivement, beaucoup m'ont dit que leur patron leur parlait en anglais. Alors, pourquoi? Parce que beaucoup travaillent pour des employeurs anglophones, mais même pour celles qui travaillent avec des patrons français, les patrons s'évertuent à leur parler en anglais. Parfois, je me demande si c'est pas volontaire pour pouvoir davantage contrôler les choses, je dirais, dans le discours, pas leur dire toujours la vérité, parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits, en fait. Pour beaucoup, elles ne connaissent pas leurs droits. Mais c'est quand elles sollicitent l'aide d'un tiers qui parle français, donc notamment celle que véhicule M. Gomez, qui leur donne des explications par rapport à leur situation, qu'elles réalisent qu'au quotidien, dans le contact avec leurs employeurs, il y a beaucoup de choses qu'elles ne savent pas. Par exemple, un employeur va leur dire qu'il va les déclarer, ou qu'il les a déclarés. Et ces femmes-là souvent restent dans l'attente, mais n'ont aucun moyen de vérifier. Vu qu'elles ne maîtrisent pas le français, donc elles restent soumises au discours de leurs employeurs. Un autre point, beaucoup me disent que leurs employeurs ne connaissent pas les lois du travail en France et qu'ils ne savent pas comment faire pour déclarer, pour faire une promesse d'embauche, pour régulariser. Et elles ont tendance à les croire. Moi, quand elles me disent ça, peut-être que c'est vrai, mais ça m'étonnerait que des gens qui soient dans une situation socio-professionnelle quand même assez élevée ne maîtrisent pas le B.A.B.A. du droit du travail, de la situation administrative, ou ne puissent pas faire les démarches. C'est quelque chose qui me surprendrait si c'était le cas. Je pense que c'est plutôt le mensonge dans ce cas-là. Je vois mal les employeurs qui sont quand même souvent à certains niveaux socio-professionnels aller embaucher une nounou, une domestique qui serait francophone, qu'elle soit d'Afrique noire ou du Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances que celles-ci, parlant français, apprennent très vite leurs droits. Et donc soient peut-être plus revendicatives et manifestent davantage de respect au niveau de leurs conditions de travail, en termes de salaire, d'horaire, de congés. Ah bah, alors ce sont les premières levées, les dernières couchées, c'est des journées de travail qui durent sans cesse. Elles font vraiment tout. Donc c'est la garde d'enfants, c'est les repas, c'est vraiment le domestique, l'image du domestique traditionnel de A à Z, quoi, c'est vraiment ça. Leur point de comparaison pour certaines, c'est les pays du Golfe, donc la situation encore plus dramatique, ou alors c'est les Philippines. Donc effectivement, si on se place du point de vue de leurs expériences, elles vont trouver, c'est certain, une amélioration et vont dire que les patrons, les employeurs, les Français sont gentils. Elles me disent tout ça. Mais je pense que c'est à relativiser.
Plus d'un million de travailleurs immigrés sont illettrés. 35 000 suivent des cours d'alphabétisation deux ou trois fois par semaine après la journée de travail.
C'est dur.
Vous apprenez le français pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que si moi travaille, non profite la patronne. Non profite. Si ça vous a défendu.
La patronne ne puisse pas profiter de vous.
Claro. Ah, oui. Si vous ne savez parler, oui. Rien profite.
Les patrons, en quelque sorte, peuvent profiter de vous si vous ne savez pas la langue.
Viti, viti, viti. Pues si una parle bien, pues arriendo
de vite. Pues
es duro porque te tienen como una borrica.
Es duro de hablar como una borrica. Ah, yo sé que los españoles hablan vite aussi.
Y parlé,
pues. ¿Vos n'allez pas rejoindre les autres?
Oui, mais. Parce que maintenant j'ai un peu bien. Avec mon patron, c'est déjà... Je sais pas, c'est pas normal, qu'est-ce qu'elle fait. J'ai jeûné avec sa fille, et sa fille, elle, toujours, elle dit, je t'aime, Mélissa, je t'aime, je t'aime.
Et avec eux, vous parlez anglais ou français?
Anglais.
Et eux, ils font quoi, vos patrons?
Mon patron, la femme, c'est une styliste.
Et ils habitent où?
16e.
Et vous habitiez loin de chez votre employeur?
J'ai habité à 7e.
Et il est comment leur appartement? Et c'est grand ou c'est petit?
5 pièces.
Et vous, chez vous, c'est grand ou c'est comment?
Moi, c'est 9,5 carrés.
9 mètres carrés et demi?
Oui.
Et vous habitez avec qui dans 9 mètres carrés?
Mon mari et ma fille. On n'a pas trop moins cher pour un grand appartement.
Parce que là, vous payez combien de loyer?
450.
450 euros?
Oui. Non, on n'a trop pas pour son papier. C'est difficile de trouver un grand appartement et moins cher.
Et là, vous l'avez trouvé comment, cet appartement-là?
C'est le gardien. Parce que avant, mariage, on n'est pas ensemble. J'habite ma mère. On habite là pour 7 ans, hein? J'ai 4. 7 ans, j'ai appartement.
Ouais.
7 ans. À cause de ça, on a demandé avec la gardienne. Après, la gardienne dit qu'elle connaît. Quelqu'un.
Faire, c'est toujours du pareil même.
Et vous dites, que fait la police? Que fait la justice? Il y a des lois, je les évoquais tout à l'heure. Et en effet, en matière de lutte contre le travail illégal, eh bien, le 16 mai 2005, Monsieur Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure, des Libertés locales, Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, et Monsieur Gérard Larcher, ministre délégué aux Relations du Travail, ont inauguré le Nouvel Office Central de Lutte contre le Travail Illégal, OCLTI. Voilà, formidable, non? Ah non, mais alors, comment ça opère le OCLTI? Eh bien, avec Charlotte, on va rencontrer le lieutenant-colonel Mascaro lui-même et François Chambre, commandant de gendarmerie, qui vont nous expliquer comment on peut appliquer la loi.
Donc, lieutenant-colonel Mascaro, je commande l'Office central de lutte contre le travail illégal qui relève de la gendarmerie nationale à la sous-direction de la police judiciaire.
Moi, je m'appelle François Chambre, je suis commandant de gendarmerie, le chef adjoint de l'Office central de lutte contre le travail illégal.
Pour ce qui concerne l'esclavage moderne, l'esclavage domestique, et donc ces conditions de traitement et d'hébergement contraires à la dignité humaine, c'est encore assez mineur en termes de constatation. Pour autant, c'est tout de même un phénomène qui prend de plus en plus d'importance. À ce titre, effectivement, on a quand même quelques problématiques, puisque nous, on ne peut pas d'initiative pénétrer les domiciles des gens. Donc, sur ce qui est l'aspect esclavage domestique ou l'emploi des personnels de maison, on n'a pas de lisibilité. En fait, nous n'aurons l'information que si la personne d'elle-même fait une démarche active vers les services, ou au contraire que un témoignage du voisinage ou de l'environnement immédiat de cette personne puisse nous rapporter cette information.
Et vous en rencontrez fréquemment des cas comme ça ?
Non, nous n'avons pas de cas recensés. Alors, à cela, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de cas que la matière n'est pas là. On connaît, si vous voulez, cette problématique, on sait qu'elle est récurrente, qu'elle est ancienne, elle est gravée dans notre inconscient collectif, parce que, par le passé, plusieurs services, et notamment des services de police, ont eu à gérer et ont eu à traiter des dossiers de la sorte. Parce qu'à un moment donné, la conjoncture était telle que nous avons eu l'information.
Mais dans des cas, disons, moins dramatiques de personnes qui sont employées, mais pour travailler 10-12 heures par jour, pour 900 euros par mois, qui sont hébergées dans une chambre de bonne pour un loyer exorbitant. Il y a des peines encourues
Dans ce cas de figure, si l'employé de maison n'est pas déclaré, il y a déjà le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié. Et s'il s'avère que la personne dort dans des conditions ou vit dans des conditions qui sont contraires à la dignité humaine, ou alors une rétribution qui est manifestement insuffisante en regard du travail accompli, on sera en présence de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité. Donc un deuxième délit puni de façon un peu plus lourde encore. C'est-à-dire 225-13 du code pénal, c'est-à-dire 5 ans. Le seuil maximal, 5 ans et 150 000 euros d'amende.
On n'a aucune idée de l'ampleur du phénomène.
Comment savoir ? Il faudrait, dans un schéma idéal, mais dans une société qu'on ne souhaite pas, pouvoir aller rentrer chez tout un chacun sans autre forme de procès pour s'assurer que quelqu'un n'est pas en train de travailler à son service dans des conditions indignes. Bien évidemment, ça pose des difficultés.
S'agissant de la culture franco-française, ce qu'on peut considérer comme étant un champ de population délictueuse est vraiment dans la société très aisée et pas dans la frange moyenne supérieure. Donc je pense que ceux qui se mettent dans cette situation par rapport à cette population très fine sont vraiment une frange très limitée de la population capable de faire ça. Donc c'est vraiment des auteurs, entre guillemets, qui potentiels en tout cas, qui sont à mon sens très très ciblés.
C'est quand même ballot, hein.
Oh.
avoir fait un truc pareil, c'est bien quand même cet OCLTI, et puis réduire de talentueux gendarmes comme ça à l'impuissance. Merci à tous, c'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Raphaëlito Gomez et merci également à Pascal Aigré du journal Le Parisien. Vous avez entendu un extrait d'Étranges étrangers de Marcel Trias et Frédéric Variot qui vient d'être réédité aux éditions Scope Périphérie. Le DVD est accompagné d'un livre très complet, Histoire d'un film, Mémoire du mut de Tanguy Perron. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. De la même façon, là-bas.org attend vos messages. La technique aujourd'hui à l'instant, mais Julien Michel, Coyen Guyenne et Raphaël Moutard auraient laissé cette émission à cité de Charlotte Perry. Elle est partout. Et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Réclame.